Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le sens de la fête, un podcast de Christophe Taillet pour Nick, la radio.
Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat? En tout cas, pendant plus d'un an, un drôle de virus nous a empêchés de faire la bringue. En club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région, dans les campagnes, la bamboche, c'était fini, paraît-il. Pourtant, la fête qui est en train de renaître nous rassemble, nous transcende, nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, nous explorons la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
C'est pour ça que j'ai fait concrète au début, c'est de faire les fêtes auxquelles moi j'avais envie d'aller. Je faisais la fête dans mes fêtes. J'étais le premier client de mes fêtes et j'étais là à 7h du matin et je repartais après le public. J'étais même pas sur scène avec les artistes, hein. J'étais dans la salle en fait, à danser parce que c'est la base quoi. Je sais ce que les gens ont vécu parce que moi aussi je l'ai vécu. Je sais à quel point c'était magique en fait.
Il a grandi dans la street, mais il n'y a que dans un club qu'il se sent vraiment chez lui. Il a été biberonné au rap 90s et à la funk, mais c'est la techno qui va faire de lui une figure des nuits parisiennes. Grosse lunette dorée sur le nez, chaîne en or autour du cou, Brice Couder en a poncé des dance floors, mais il les a surtout construits. Avec une bande de potes, il va contribuer au renouveau de la fête à Paris, et pas qu'un peu. Un beau jour de 2011, la clique de trentenaires ouvre Concrète, dont Brice prend la direction artistique. Un club sur une péniche, des afters en journée légendaires, un rendez-vous pour toute une génération, un nouveau phare dans la nuit. Paris rebrille enfin sur la carte mondiale du clubbing. Aujourd'hui, Covid oblige, Brice Couder a délaissé l'obscurité des clubs pour mieux mettre en lumière leur culture. Avec son nouveau projet Underscope, il donne de la force aux musiques électroniques made in France, avec toujours le même objectif, révéler au plus grand nombre ce qui vibre sous les radars. Mais avec lui, le dance floor n'est jamais bien loin. Armé de ses Air Max et de son jogging, l'uniforme idéal pour envoyer ses meilleurs moves, Brice traque la teuf sans relâche, prêt à bondir à la moindre baseline. Brice Couder, bonjour.
Bonjour.
La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand ?
Fête officielle, c'était il y a un petit moment, c'était en août dernier. C'était pour la teuf Rins La Créole à Bobigny. Et c'était en open air, c'était assez...
Presque un an.
Hein. Ça fait presque un an, ouais. C'était assez magique de pouvoir se mélanger à des gens qu'on connaît pas. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Après, j'avoue qu'à la moindre occasion, on arrive à déclencher des petites fêtes spontanées. Par exemple, samedi dernier, on était chez moi avec des amis. Il a suffi que je mette un morceau. On était 10 et c'est devenu une fête, quoi.
Donc ça fait 3 jours, du coup, ça va.
Ouais, mais ça peut aller vite. Mais la vraie fête officielle que j'ai faite, c'était il y a un peu moins d'un an. Quoi.
C'est important pour toi, la fête? Ça fait partie de ta vie?
Ça fait complètement partie de ma vie parce que déjà c'est mon travail depuis 10 ans, c'est ce qui m'a permis de m'épanouir en fait dans ma vie. Moi avant ça j'étais ingénieur d'affaires en informatique. Je menais une carrière que je faisais pour l'argent. Moi, je viens de banlieue. J'ai pas d'un milieu super aisé. Donc, quand j'ai fait mes études, je me suis vraiment dirigé vers les choses où j'allais pouvoir un peu redresser les finances de moi et ma famille. Et du coup, je suis parti vers une carrière qui m'intéressait pas forcément. Et en parallèle de ça, je me suis mis à utiliser mon argent pour faire des voyages un peu partout en Europe. Et c'est la fête qui m'a permis de sortir de ma banlieue, de rencontrer des gens, de découvrir la musique et de finir par devenir un directeur artistique d'un club reconnu et faire un travail que j'aime quoi. Donc la fête m'a apporté tout ça quoi.
Tu nous parlais de ta jeunesse, du coup raconte-nous un peu, je crois que tu as grandi avec Garges-lès-Gonesse en banlieue parisienne. Raconte-nous l'ambiance, le milieu dans lequel tu as grandi. Est-ce que on faisait la fête chez toi quand tu étais petit ou pas du tout?
Alors moi, j'ai grandi à Garges-lès-Gonesse dans les années 90, donc dans un milieu bien caïra, on va dire ce qui est. Donc ouais, on faisait la fête. Moi, mes premiers contacts avec la fête, c'était des teufs dans des MJC, des après-midi, le mercredi, à danser sur du dancehall. En fait, t'avais les teufs avec des Renois où c'était que du dancehall, et t'avais les teufs avec des rebeux où c'était que de la funk.
Ok.
En fait. Et c'était en plein après-midi, t'arrivais, t'avais des caïra qui étaient le long du mur avec leur bombardier ou leur fly scott avec les cols relevés, les gros échappes Burberry et compagnie. C'était nos booms à nous, quoi. Et ça a été mes premières sensations de fête. Par contre, bizarrement, justement, venant de ce milieu-là, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à rentrer dans des clubs et à découvrir les boîtes de nuit. Nous, il m'est arrivé, je sais pas combien de fois, de me retrouver, de passer la nuit à Pigalle avec mes potes parce qu'on n'avait pas réussi à rentrer dans un club, quoi. Et c'est bien plus tard, c'est la musique électronique qui m'a un peu ouvert la porte.
Ouais. Ouais, tu finis à zoner à Pigalle dans les bars de nuit.
Jusqu'au premier métro.
Voilà, c'est ça. Premier...
Même les bars de nuit, ils voulaient pas de nous.
Ah merde. Et toi, t'écoutais quoi comme son à l'époque?
J'étais vraiment dans la musique black, dans tout le spectre, quoi. J'ai grandi avec de la funk, beaucoup. Après, le hip-hop est arrivé, donc moi, je me suis engouffré dedans. J'étais, du coup, à Garges-lès-Gonesse, j'étais assez proche de tout le crew de Secteur A, Première Classe, je connaissais pas mal de rappeurs de toute cette famille-là. Moi-même, je rappais un peu.
Ouais.
À l'époque.
Ouais, quoi. Il y a des petits sons qu'on peut écouter ou pas?
Non. En fait, j'avais un groupe avec des amis et un d'eux est parti en prison. Ça a cassé le projet. Et finalement, c'est à ce moment-là que je me suis cherché d'autres passions, je suis tombé dans la musique électronique. Mais oui, j'ai mis du temps avant de découvrir la musique électronique, parce que chez nous, c'était pas autorisé, en fait. Personne n'écoutait de la musique électronique, c'était soit le rap, soit rien du tout. Les gens qui écoutaient du rock ou de la techno, ils étaient vus comme des ovnis, quoi.
Et tu te souviens du tout premier club dans lequel t'es rentré ?
C'était pas fameux, c'était un club de vacances, en fait. C'était un club de vacances à Argelès. Bon, je devais avoir 16 ans, mon frère avait réussi à me faire rentrer dans le truc. Et j'avais pas du tout aimé, en fait. J'aimais pas la musique, j'aimais pas l'ambiance, ça m'a pas du tout parlé. Et en fait, j'ai mis du temps. Ma découverte du club en musique électronique, je l'ai faite à 25 ans, donc c'est super tard. Et jusque-là, j'ai eu du mal à avoir des bonnes expériences en club, parce que premier truc, quand j'allais en boîte de nuit, les gens, ressemblaient pas à mes potes, donc c'était compliqué. Et musicalement, moi, danser sur de la variette, ça m'a jamais affolé, quoi.
Ça t'éclatait pas.
Et en plus, j'avais du mal à rentrer, donc pour moi, c'était tout un truc négatif, la boîte de nuit. Donc j'y allais pour des anniversaires, j'allais au Latina Café de temps en temps, j'avais un pote qui travaillait là-bas. J'ai pas eu le choc boîte de nuit comme beaucoup le racontent, très jeune, quoi.
Et du coup, tu découvres vraiment le club techno, la musique électronique à 25 ans. C'est à Berlin, c'est ça? J'ai lu que c'était notamment en particulier la soirée d'ouverture du Berghain en 2005, c'est ce moment-là?
C'était pas la soirée d'ouverture du Berghain, c'était la première année du Berghain. Et par contre, c'était la soirée d'ouverture du Bar 25, c'est un autre lieu mythique de Berlin. J'étais avec des potes avec qui j'étais à l'école, en fait. On était en école de commerce informatique. On s'était acheté un camion et on voulait faire le tour d'Europe. Et la première étape, on l'a faite à Berlin. Et on connaissait pas du tout, en fait. On savait même pas que c'était la capitale de la techno.
Ah ouais?
Et ouais. Et on s'est retrouvé dans un club R&B en plein centre-ville, un peu pourri. Donc à 3h du matin, on se barre du club. Et là, j'étais en alternance. Et mon directeur artistique de directeur artistique.
Mon
directeur commercial. c'est pas pareil du tout. Mon directeur commercial de l'époque. En pleine soirée, il m'avait envoyé un message pour me dire: t'es à Berlin, il y a un club qui vient d'ouvrir, ça s'appelle le Berghain, c'est génial, il faut que t'ailles voir. Bah, on a passé genre 2 heures à demander aux gens où c'était, les gens personne connaissait à l'époque, même dans Berlin, quoi. Donc on a eu du mal à trouver. Finalement, on tombe sur un groupe de jeunes qui nous disent: bah, le Berghain c'est là, mais par contre là en pleine nuit ça sert à rien, venez avec nous, il y a un nouveau spot qui est ouvert, c'est le Bar 25, on y va et après on va ensemble au Berghain. Et du coup, je me suis retrouvé à faire la fête d'ouverture du bar 25, donc genre,
incroyable.
C'est énorme, quoi. Ma première expérience, c'était ça, en fait. Et la claque, je l'ai pris le jour de l'ouverture d'un des clubs les plus mythiques de Berlin. Exactement. Donc grosse baffe. Et je me rappelle que ce qui m'a marqué dans ce club, parce que moi j'avais pas fait ma transition vers la musique électronique encore, j'avais un peu abandonné le hip-hop parce que j'avais pas suivi la transition entre Mobb Deep et Timbaland, en fait. Donc internet était arrivé et j'étais en mode, je diguais beaucoup de soul music, des vieux trucs, je me faisais un peu une culture musicale, mais j'étais pas passé à la musique électronique parce que ça me paraissait trop une musique de blanc, en fait, et que ça me parlait pas forcément. Et quand je suis arrivé arrivé au bar 25, j'ai entendu la musique, plus house et minimal, et directement je me suis rendu compte qu'il y avait un truc funk dedans, qu'il y avait de la soul dans cette musique.
Ça groovait.
Voilà, que ça groovait exactement, et je me suis pris cette claque. Et ensuite, il y a un des Allemands qui était avec nous, qui a fait une sorte de coma en plein milieu de la soirée, donc on s'est dit bon, on va aller lâcher eux, et on s'est barré pour aller au Berghain. Et je sais pas par quel miracle.
T'es rentré.
Ils nous ont laissé rentrer. En fait, on était quatre mecs. J'étais qu'avec des rebeux. On était habillés comme des Kaira. Et en fait, je pense qu'ils nous ont pris aussi pour des gays. Et là, je rentre dans le Berghain sans savoir, sans en avoir jamais entendu parler avant, en fait.
Ça n'est pas du tout.
Donc
ce
voilà, j'ai découvert
quoi.
From scratch le truc. C'est une église, le truc, quoi. Je comprends pas. Et j'arrive dans. Enfin, déjà, t'arrives juste dans le vestiaire. C'est super impressionnant. Avec les gays en pantalon en cuir découpé au niveau des fesses. C'était la débauche totale. C'était pas du tout mon univers. Mais c'était hyper grisant, tu crois que c'est tout le club en fait qui est là, mais en fait c'est que le vestiaire, et tu montes l'escalier et là le son de système énorme et la musique qui sonne, il y a un morceau qui m'a complètement marqué et qui m'a fait basculer, ça, c'est le morceau de Slam qui s'appelle Positive Education. Quand je l'ai écouté au Berghain, je me suis dit mais putain, c'est de la soul music, ça c'est la folie, c'est ça que j'ai envie d'écouter maintenant. Et on m'avait laissé rentrer en fait.
Ouais, du coup, en même temps que la musique électronique, t'as découvert l'inclusivité dans le club, la liberté, tout ce qui va avec dans les clubs berlinois que t'avais jamais, absolument jamais vu dans les boîtes de nuit françaises où t'étais sorti.
Mais je savais pas que ça existait en fait.
Ouais.
Moi, quand j'imaginais des clubs ou des fêtes techno, je m'imaginais que c'était pas ouvert à moi de toute façon, que jamais je pourrais accéder à ça, que si je me retrouvais dedans, on pointerait du doigt et on dirait à lui, voilà, ils font pas de drogue, il est bizarre et compagnie, alors que ça a été tout le contraire en fait. Dans cet environnement, le jour même, on s'est fait des amis. J'ai fini mon tour d'Europe, je suis rentré à Paris, un mois plus tard j'avais un autre billet pour Berlin, je suis retourné voir mes amis, je n'ai pas posé mes valises là-bas mais j'y étais tous les mois quoi. J'avais une vraie communauté là-bas comme j'avais jamais eu à Paris.
On m'a dit que justement au Bar 25, donc club mythique qui était en bord de Spree, qui a fermé en 2010, et pour ceux qui n'ont pas d'image du Bar 25, c'est notamment le club où est tourné une grosse partie de Berlin Calling, le film de Paul Kalkbrenner. On m'a dit que tu avais vécu dans le Bar 25 pendant quelques temps, pendant quelques mois, c'est quoi cette
ouais,
histoire
ouais. J'avais mon taf à côté et du coup une fois par mois le week-end je me pointais à Berlin pour faire la fête quelques jours, et je revenais le lundi pour aller au travail. Et au bout d'un moment, à force de squatter le bar 25, j'ai rencontré les proprios et qui m'ont expliqué qu'il y avait en arrière, on va dire en backstage du club, t'as une petite forêt, mais ça fait partie du club quoi, avec des cabanons, et que je pouvais les louer quand je venais le week-end. Donc à chaque fois que je venais à Berlin, j'allais même plus chez des amis, je me louais le cabanon et j'y vivais dedans. Et à un moment, j'ai eu une expérience professionnelle qui s'est mal passée, comme quasiment toutes mes expériences professionnelles à cette époque-là. J'ai été au chômage et j'ai eu cette tentation d'essayer Berlin. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer d'aller là-bas quelques mois. J'ai été hébergé dans le bar 25 pendant 3 mois, quoi. Et j'ai vécu dans un club pendant 3 mois. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le bar 25, quand tu vis dedans, c'est pas un club qui est ouvert le samedi et le dimanche. Ça ouvre le mardi, le mercredi soir, et ça ferme le mardi fin de matinée. Donc en fait, il n'y a que 2 jours où c'est pas la fête. Et je me suis retrouvé dans des ambiances où je me réveille le lundi à 10h, 11h du matin, je me pointe en peignoir et je rentrais dans le club par le bar en peignoir, je me faisais un shot de Jägermeister et je retournais prendre ma douche, et après j'allais sur le dance floor, je faisais même pas la fête, j'étais là avec les gens, je rigolais, les gens ils étaient là depuis 3 jours, je vivais là-dedans, j'évoluais, et c'était magique. C'était plus une question d'ambiance en fait, c'était une sorte de Woodstock le truc, c'était les confettis, les gens avec des paillettes sur la gueule, c'était vraiment une ambiance psychédélique, festive et compagnie. Alors que le Berghain, j'y allais, c'était l'église de la musique quoi, je m'éduquais, et à l'époque c'était l'époque des résidents, Prozoomer, Steffi, Tamasumo et compagnie, et j'allais vraiment pour découvrir la musique. J'avais pas la connaissance de cette musique que j'ai aujourd'hui, j'analysais les line-up, j'allais taper dans Google les noms, j'allais checker les discographies, et je me suis fait ma culture comme ça en fait.
Dans ta découverte comme ça de la teuf et du club, est-ce qu'il y avait une figure paternelle entre guillemets qui t'a initié, qui vous a initié avec tes potes, ou vous êtes arrivé comme ça dedans en équipe et c'était vraiment freestyle quoi?
On n'a pas eu une figure paternelle ou maternelle, en fait on en a eu plein en fait, j'ai fait que ça des rencontres. En fait il s'est passé un truc où comme je disais tout à l'heure, Je gagnais assez bien ma vie, du coup ben, tous les week-ends je bougeais quelque part et j'étais tous les week-ends soit à Berlin, soit à Amsterdam, j'allais pas mal en Pologne et en Ukraine aussi quand il y avait des événements et je me suis retrouvé dans un truc où les DJ, les agents, tous les professionnels me voyaient partout et je suis devenu un peu le français que tout le monde connaît et les DJ à chaque fois qu'ils rencontraient un français, ils leur demandaient « tu connais un mec qui s'appelle Brice ?» Où que j'allais, j'avais des gens qui m'accueillaient parce qu'ils savaient que j'étais pas organisateur, j'étais pas DJ, j'avais rien à gratter en fait, j'étais là que pour faire la fête, donc ils avaient rien à craindre de moi. Et dès qu'ils me voyaient, ils m'ouvraient la porte des backstage, ils me présentaient les gens et compagnie. Donc je suis tombé sur plein de professionnels qui ont été super bienveillants avec moi. Mais après, il y a personne qui m'a guidé dans la fête parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de guide dans la fête parce que chacun l'a fait à sa manière et je me suis fait ma propre éducation là-dedans, quoi.
Ton premier Berghain, donc c'est en 2005. Les premières soirées que tu vas organiser à Paris avec Twisted, c'est vers 2010. Il s'est passé quoi entre les deux ?
Comme je connaissais tout le monde à Berlin et je connaissais des DJ, des professionnels et compagnie, ben je me suis mis à sortir à Paris pour aller voir ces étrangers quand ils venaient à Paris. Et du coup, je suis arrivé un peu dans les clubs par la grande porte où les gens ne me connaissaient pas et tout d'un coup, ils m'ont vu débarquer avec les artistes et je connaissais tout le monde et compagnie, donc ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se poser des questions disant bah, c'est qui ce mec là qui vient de banlieue qu'on n'a jamais vu avant, parce que la nuit parisienne à cette époque là en 2005-2006 c'était tout petit, c'était pas comme aujourd'hui, c'était une petite communauté où tout le monde se connaissait, tous ces gens là faisaient la fête depuis 10 ans ensemble et bah, ils m'avaient jamais vu. Et du coup bah, j'ai commencé à sortir à ce moment là mais sortir fréquemment, enfin tous les week-ends on me voyait avec un de mes coéquipiers de choc qui s'appelle Pete, avec qui j'ai monté Concrète. En 2010 on connaissait tout Paris en fait, quand on sortait dans un club, qu'on allait au Rex, on passait une demi-heure à dire bonjour à tout le monde dans la salle, quoi. C'est une sorte d'écosystème de la fête que je me suis construit pendant 5 ans, entre 2005 et 2010. Ouais. Il y avait le Rex, beaucoup. On n'était pas trop Social Club, nous. C'était un peu East Coast, West Coast, quoi, Rex, Social Club. Le Bateau Phare, beaucoup. Et le gros truc qu'il y a eu, qui a changé la donne, c'est la Sunday, en fait. C'est passé au Café Barge, le dimanche après-midi, parce que c'est la première fois qu'il y avait un événement qui n'était pas en club, qui était en plein air, qui était un dimanche après-midi. Vu que c'était le dimanche après-midi, il n'y avait pas la population de gens qui sortent le samedi soir par hasard, c'était que des gens qui savaient pourquoi ils étaient là. Ça a été vraiment le truc qui m'a donné envie d'organiser mes propres événements. Je me suis dit non mais en fait à Paris il y a moyen de faire des trucs super bien, faut arrêter de dire que c'est pas bien, que les gens veulent pas sortir, il y a assez de monde pour faire des belles choses, quoi.
C'était quoi l'ambiance à l'époque des clubs parisiens, de la nuit parisienne en 2006
En 2006 dans les clubs parisiens c'est simple, hein. T'avais la communauté qui sortait tout le week-end, donc nous, où on se connaissait tous et on était on va dire 150-200 dans la soirée, et après des gens à côté qui étaient random, qui étaient là pour une fois peut-être. C'était un peu spécial, le public était moins éduqué on va dire que maintenant, même si maintenant il n'est pas parfait. Mais à l'époque c'était vraiment beaucoup un public de passage d'un côté et une petite communauté autour, quoi.
Raconte-nous comment du coup t'as franchi le pas, t'es passé de l'autre côté, t'as commencé à organiser des soirées, le début des soirées Twisted, donc qui étaient un peu les prémices de Concrète. Comment ça s'est passé? Comment t'es passé de l'autre côté de la barrière?
Pendant ces années, en fait, de 2005 à 2010, je m'étais toujours dit que je voulais pas être DJ et que je voulais pas organiser de fête, que je voulais rester ce mec qui est là juste pour faire la fête. Et ça m'allait super bien. Et justement, tout le monde, tous mes potes autour de moi me disaient « Mais pourquoi tu mixes pas? Pourquoi t'organises pas de fête ?» Ça me branchait pas forcément. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Je me suis dit, en voyant la Sunday particulièrement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un manque à Paris sur les événements. J'avais envie d'organiser les événements où moi j'avais envie d'aller, en fait, tout simplement. Et je me suis retrouvé, c'est cette fameuse période où j'étais au Bar 25. Le Bar 25, c'était l'année de fermeture du Bar 25. Et en gros, les patrons m'ont dit, voilà, nous on va fermer, on aimerait faire une fête à Paris pour notre fermeture, mais on veut pas la faire en club, donc si t'as un spot, nous on est chaud de le faire avec toi. Et j'avais jamais rien organisé. Donc j'ai monté une petite équipe, j'ai trouvé une sorte de squat à Vincennes, la Jarry. Finalement, ça s'est mal passé avec eux. Ils ont voulu un peu nous escroquer. En une semaine, j'ai trouvé une sorte de studio de cinéma à Saint-Ouen, où je leur ai menti qu'on devait faire un colloque associatif.
un beau colloque.
Ils ont bêtement accepté. Et du coup, on a lancé notre premier événement dans ce studio à Saint-Ouen, pas loin d'où j'habite maintenant. La première Twisted dédiée au Bar 25. Et on s'est retrouvés à l'époque avec 600 personnes. Pour l'époque, c'était beaucoup. Et surtout, okay, c'était beaucoup parce qu'on était à Saint-Ouen, c'était pas à Paris, quoi. Et du coup, c'était une grosse victoire pour nous. Mais on a fait ce truc-là sans avoir aucune compétence. Je me rappelle, pour la petite anecdote, on n'avait pas prévu de cintre pour faire le vestiaire en fait. Et j'ai mon pote Pete qui a eu la bonne idée, qui nous a dit, ah, parce qu'il a un accent américain, il m'a dit, ouais mon poule, t'inquiète, on va mettre ça dans des sacs poubelles, on va mettre des numéros sur chaque sac poubelle, les gens ils vont revenir, ils vont nous donner le numéro, on va leur donner leur veste. Mais le problème c'est que on a mis les vestes dans les sacs poubelles avec le numéro, au bout d'une heure, tous les tickets qu'on avait collés sur les sacs poubelles, ils sont décollés, et à la fin, quand les gens sont venus chercher leur veste, impossible de dire quelle veste appartenait à qui, et ça s'est fini à la crier quoi.
Avec 600 vestes, ouais,
exactement, on se faisait insulter. Après, heureusement, la fête était magique, la fête était incroyable, parce que justement, on a fait ça n'importe comment, donc ça avait le charme du début quoi. Donc voilà, c'était notre toute première fête Twisted, et ensuite. On cherchait, bon, ce lieu, bien sûr, on l'a rendu full vomi, cotillon partout. Ils ont voulu nous attaquer par la suite et compagnie. Donc, il n'y avait pas moyen de refaire d'événements là-bas. Et donc, ça nous a pris un peu de temps pour trouver un autre endroit. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la barge de concrète en allant à la Sunday. Je suis passé devant pour aller pisser contre un mur. Et j'ai vu le lieu et j'ai lutté pour trouver le numéro de téléphone des gens qui géraient. Ils m'ont expliqué que je pouvais pas faire de nuit là-bas. Parce qu'ils avaient une licence qui se termine à 2h du matin. Donc moi, le premier truc que j'ai dit, c'est on ferme à 2h du matin, mais par contre, on peut ouvrir à 7h du matin. Donc ils nous ont demandé si c'était une rave party qu'on voulait faire. Donc on leur a dit que non, c'était un truc disco, avec un public assez cool et compagnie. Et finalement, on a lancé la deuxième concrète, Twisted, pardon, qui était une after géante de 7h du matin, 2h du matin, 19h d'affilée. Tout le monde qui est venu nous voir avant pour nous dire c'est pas possible, ça marchera pas. Les gens, ça les intéresse pas de faire des afters toute la journée. Et les flics vont débarquer, ils vont saisir le matos et compagnie. Et en fait, ça a été un succès de fou, quoi. On a vendu les tickets en quelques minutes. La fête est complètement mythique, quoi. Tout le monde m'en parle encore aujourd'hui. Et on a eu ce truc, ce moment historique pour nous. On avait booké pour la première fois Sun Proper, qui est un artiste hollandais. C'est vraiment un personnage, une rockstar en fait. Et t'as cette scène mythique qui est sur YouTube d'ailleurs. T'as la terrasse de concrète qui est blindée de gens et lui qui crie au micro Paris is back, motherfucker.
You! One love for Greece! Hey! Hell yeah! I feel twisted!
Et là, tout le monde qui crie, et ça a été un peu notre statement, parce que ça a été un peu ça en fait, c'était la teuf qui a déclenché un peu ce retour à Paris.
À ce moment-là, toi tu bosses encore dans le cabinet de conseil ou t'as déjà démissionné ?
À ce moment-là, je bosse encore dans le cabinet de conseil, mais c'est compliqué. Et mon directeur de l'époque voit que c'est compliqué, et un jour il me convoque et il me sort des factures de DJ roumain d'ailleurs, et il me dit c'est quoi ces factures, ça a pas duré longtemps, je suis resté 3-4 mois en fait à faire les deux en même temps, mais j'ai vite arrêté, je me suis lancé directement dans la fête.
Comment vous basculez de cette première soirée sur la péniche à vraiment concrète le club, quelque chose, un projet solide, durable, comment ça se passe la transition?
J'avais ce truc-là, j'avais vraiment le feu, j'y croyais très très fort, je savais qu'on pouvait vraiment créer quelque chose au niveau scène, je sentais qu'il y avait plein d'artistes étrangers déjà que les gens voulaient voir et que personne faisait venir, et je sentais qu'il y avait un public qui était prêt à sortir, je voyais Berlin qui devenait de plus en plus à la mode, dont on parlait de plus en plus et chantait que ça allait exploser, et du coup on s'est lancé dans ce projet qui est concrète, qui était bon, Twisted, c'est tordu. Et ça allait avec les événements, et on s'est dit on va faire un truc qui est le contraire de ça, donc concrete, qui est le béton, qui est un truc solide, qui dure dans le temps, bon, qui a duré 9 ans, ça va,
c'est pas mal. C'est pas mal, les gens, ouais, une décennie.
Ouais, c'est pas mal, mais l'idée c'était, je voulais être comme le Rex, je voulais créer une institution, un truc qu'on respecte, pas juste faire la fête comme à Twisted, mais un côté où on vienne découvrir la musique, découvrir une culture, découvrir une certaine manière de faire la fête, c'était super important pour moi. Et surtout, ce que je voulais, c'était créer un public, en fait. Je voulais pas faire des fêtes pour les 1000 personnes que je fréquentais depuis 6 ans. En fait, je voulais aller chercher des gens qui n'y connaissaient rien du tout et leur montrer, ben, au mieux d'écouter vos conneries de David Guetta et compagnie. Écoutez ça, vous allez voir, vous allez vous amuser pareil, sauf que c'est de la meilleure musique et vous allez vous faire de votre culture. Et c'est là-dessus que j'ai joué. Et ça a marché parce que...
Ça a réussi, ouais.
Ça a réussi parce que, ben, genre, je sais pas, en 2018, 2019, je bookais des artistes qui m'ont dit qu'ils ont écouté la première fois de la musique électronique à concrète. 5 ans avant, quoi. Donc, on a réussi à éduquer des gens. Ouais.
Quand Concrète ouvre en 2011, vous sentez tout de suite que ça prend ?
C'était carton direct en fait. C'était marrant parce que les trois événements qu'on avait organisés, les trois Twisted qu'on avait organisés, ils se sont faits en mai, juillet et septembre, donc en plein été. Et en fait, le highlight de ces teufs, c'était la terrasse en fait, parce que c'était de l'open air et que les gens à l'époque, c'était incroyable pour eux de danser dehors. Ça n'existait pas, à part la Sunday, il y avait pas de trucs comme ça. Le premier événement concret s'est fait en fin octobre. Et on avait peur de ça, on s'est dit, est-ce que là on va faire un événement où il n'y a pas de terrasse, où on n'est que en intérieur? Et il faut pas oublier que c'était, on parlait pas de teuf de nuit, on était sur des dimanches de 7h à 2h du matin, quoi. Donc c'est vraiment super spécial, et en fait ça a cartonné direct. À cette époque-là, même toujours, mais encore plus à cette époque-là, je faisais la fête dans mes fêtes. J'étais le premier client de mes fêtes et j'étais là à 7h du matin et je repartais après le public. Je sais ce que les gens ont vécu parce que moi aussi je l'ai vécu, je sais à quel point c'était magique en fait.
Même après, par la suite, t'as toujours fait la fête dans tes fêtes?
Toujours. J'ai même fait des choses qui ont été mal vues par les gens avec qui je travaillais. Mais moi, il y a un moment où je refusais de travailler sur les événements. Pourtant, il y avait beaucoup de taf et il y avait beaucoup de trucs à faire. Et moi, je disais à mes acolytes qui me disaient, il y a ça à faire. Et je disais, moi, je ne le fais pas en fait. Je travaille tout le mois, du lundi au vendredi, voire plus. Quand c'est l'événement, moi, je fais la fête, je veux vivre l'expérience. Et débrouillez-vous. Si vous voulez, on va embaucher des gens, ça va nous coûter un bras, c'est pas grave. Mais moi, le jour de la fête, je veux la faire, la fête. En fait. Et même sur nos plus gros événements, tu vois, genre quand on faisait le Weather,
Tu bossais pas au Weather.
Je traînais sur le... En fait, je me faisais le premier soir, je recevais un peu les artistes, histoire de, voilà, de dire que j'avais fait quelque chose. Et après, tout le week-end, je me baladais. J'étais même pas sur scène avec les artistes, hein. J'étais dans la salle, en fait, à danser, parce que c'est la base, quoi. C'est pour ça que j'ai envie de continuer de faire ce métier, en fait. Parce que mon premier kiff avant d'organiser, en fait, c'est d'aller à mes fêtes.
C'est de créer les propres fêtes où tu as envie d'aller t'éclater, en fait.
C'est pour ça que j'ai fait Concrète au début, c'est de faire les fêtes auxquelles moi j'avais envie d'aller.
Tu disais que tu voulais, avec Concrète, créer un public, créer un état d'esprit, créer une identité. C'est quoi l'état d'esprit de Concrète?
Le truc qui est super important dans Concrète, c'est le temps, en fait. Et c'est quelque chose qui nous a rendu différents de tous les autres clubs à Paris. C'est que nos fêtes, que ce soit les dimanches ou même quand on a ouvert en mode club normal, nos fêtes duraient longtemps. Parce que les nuits, on les commençait à 20h, on les commençait pas à minuit. Et ça change la donne dans le sens où quand tu vas en boîte de nuit, ça ouvre à minuit. Toi, t'arrives à 2h30 du matin. Pendant une heure, tu dis bonjour. Il est 3h du matin. Donc là, tu te dépêches de boire des coups, de boire des shots pour être à l'envers et t'apprécies même pas la musique. Et là, ça y est, il est 6h du matin, ça ferme et tu te barres. Alors que chez nous, ça durait des plombes, en fait. Donc t'avais le temps de pas boire, par exemple. T'avais le temps de te poser sur la terrasse avec quelqu'un et parler pendant 3h. Et ensuite, t'avais le temps d'aller écouter un artiste. Parce que justement, ça aussi, c'était important. C'est que les artistes, je leur donnais des sets de 4h. Au mieux de 1h30 ou 2h en club. Là, je leur donnais 4h pour s'exprimer. Donc, t'avais le temps de vraiment d'écouter la musique, de baigner dans l'univers de quelqu'un. Et après, l'autre truc, c'était cette phrase de « no standing, just dancing », en fait. Et ça se dit même pas en anglais, en plus. C'était un de nos premiers événements. Je voulais faire une pancarte qu'on colle sur le bus avec un slogan. Et je savais pas quoi faire. Et je l'ai trouvé comme ça. J'avais vu un tag une fois sur Google Images. Et on a collé ce truc-là. Et c'est devenu notre slogan. Concrète, il n'y avait pas de chaise pendant des années. Il n'y avait pas un seul endroit pour s'asseoir. C'est « tu viens ». C'est la musique avant tout, c'est la danse et c'est tu dois tout donner, tout ce que tu dois faire doit tourner autour de DJ Boost et on te propose un d'autre. Et c'était ça qui était super important. Il y a pas de coin VIP, on n'avait pas de backstage non plus. On a fait faire un DJ Boost exprès où les gens pouvaient danser tout autour de l'artiste. Et c'était exprès pour parasiter ce truc de le tiers état devant le DJ et derrière la noblesse. Et que même les artistes, quand ils avaient fini leur set, ils n'avaient pas un endroit où se cacher. On était un peu les spartiates de la fête. Et voilà, on avait cette image de gens un peu radicaux, techno, genre qui ramènent Berlin à Paris, même si on n'aimait pas cette comparaison. Mais c'était ça l'esprit Concrète. C'était pas confortable, en fait. J'aimais pas les comparaisons avec Berlin parce que mes inspirations, c'est vrai, je les ai beaucoup prises à Berlin, mais je les ai aussi prises ailleurs, dans d'autres endroits. J'ai été beaucoup influencé par des choses aussi en Allemagne, par exemple. Moi, le Robert Johnson, qui est un club à Offenbach, à côté de Francfort. Ça a été une de mes grosses inspirations, des choses que j'ai vues à Amsterdam aussi, des choses même que j'ai vues en Ukraine ou en Pologne. Et surtout, la différence avec Berlin, c'est Concrète, les gens qui étaient là, c'était des Parisiens en fait. Et ça change tout en fait, c'est pas
ça
la même chose.
Ça change l'ambiance forcément.
Ça change l'ambiance et le public berlinois, il est incroyable. Il est, tout le monde se mélange et tout le monde respecte tout le monde, contrairement à Paris où c'est un peu plus agressif et c'est un peu plus dur. Mais nous, on avait justement cette électricité dans l'air où les gens ils étaient un peu plus vifs, un peu plus nerveux. Et ça rendait l'ambiance super électrique et c'était unique. J'ai fait beaucoup de fêtes au Bergen, dans la salle techno, et j'ai toujours trouvé que l'ambiance était plus tonique, on va dire, sur les mêmes artistes à Concrète qu'au Bergen, où les gens étaient un peu plus sages et un peu plus dans la retenue. Après, c'est un peu moins vrai maintenant, qu'il y a un peu plus de kids. On avait beaucoup de très jeunes danseurs et danseuses qui mettaient une énergie de malade, en fait. C'était incroyable.
Puisqu'on parle de très jeunes danseurs et danseuses, quand même, j'aimerais raconter une anecdote. C'est que Emma, notre stagiaire qui est présente dans ce studio, est rentrée à Concrète à l'âge de 16 ans avec une fausse carte d'identité.
Ah, voilà. Mais ça, c'était déjà bravo. C'est bien. Mais ça, oui, c'était le game chez nous, quoi. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on nous a beaucoup reproché d'avoir un public trop jeune. Et nous, en fait, on n'en a jamais rien eu à foutre de ça. On savait déjà que c'était ce public-là qui donnait l'énergie. Et nous, on les voyait, les mecs, les gens qui disaient ça et qui râlaient, on les connaissait, c'était les gens de ma génération et compagnie. Et moi, je les voyais bien, ils dansaient pas déjà. Donc, j'avais aucune envie de remplir ma salle avec ces gens-là, même si je voulais qu'ils soient là parce qu'ils contribuaient aussi à la fête. Mais je savais qu'il fallait un équilibre et que les jeunes, c'est eux qui apportaient le jus. Et finalement, ces jeunes, c'est eux que j'ai fini par booker 5 ans après. Donc, c'était super important.
Un beau jour de 2017 arrive les samedi-dimanche. Vous êtes le premier club français à obtenir l'autorisation d'ouvrir 24 heures sur 24. C'est une révolution à Paris.
Oui, c'est incroyable. Et c'est un gros statement, en fait. Parce que déjà, ça nous met, nous et Paris et la France, sur la carte, voilà, des clubs qui sont capables de proposer des événements de cette durée. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces autorisations, on les a eues, c'était légal, quoi. On nous les a données. Après toutes ces années où on s'est fait torpiller pour notre culture, ou même on l'a vu même dernièrement, il y a eu beaucoup de problèmes, ou assimilés à la drogue, où personne ne nous faisait confiance, où les clubs se faisaient fermer, les fêtes, saisir leur matériel et compagnie. Et ben là, on était arrivé à un niveau où on avait tellement fait nos preuves qu'on a réussi à obtenir l'autorisation à rester ouvert pendant, c'était pas 24 heures, hein, les samedis dimanches, ça durait 30 heures, quoi. Et ça a été un regain encore d'énergie, parce que c'était sur les dernières années de Concrète, en fait. C'est comme le Covid, quoi, c'était la troisième vague.
Un peu plus sympa, la troisième vague.
Ouais, grave. Mais oui, ça a été un regain d'énergie, et moi, j'ai revu mon club d'une manière complètement nouvelle. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'avantage de ce genre de fête, c'est qu'à minuit, il y a des gens qui arrivent, en fait. Et ensuite, à 7h du matin, il y a des gens qui se lèvent à 7h du matin pour venir à 7h du matin parce qu'il y a un artiste en particulier qu'ils aiment bien, ou moi, tout simplement parce que moi, mon truc, c'était de voir le lever de soleil et me boire un thé sur la terrasse, lever de soleil et écouter de la musique comme ça, c'était mon truc. Et du coup, moi, j'arrivais à 7h du matin et je rencontrais les gens qui étaient là depuis minuit. Et t'as cette osmose entre les deux types de public qui est magique. Et ensuite, à 14h, il y a une autre rafale de gens qui arrivent, qui est tout frais et qui va apporter une nouvelle énergie. Et la fête est relancée sans cesse, en fait. Moi, carrément, ce que je faisais, c'est que je prenais souvent ma chambre d'hôtel à côté du bateau et j'allais faire des siestes et j'arrivais, ça me permettait de vivre toutes les étapes de la fête. C'est incroyable.
C'est quoi ton meilleur souvenir à Concrète ?
Il y a eu plein d'événements qui ont été magiques, quoi. Je me souviens un particulier, un dimanche en plein hiver au mois de janvier, où on avait fait Floating Points, t'avais Jeremy Underground, t'avais The Persuader, un artiste suédois, et il y avait Samina Seri dans la salle qui avait foutu le bordel toute la journée. Et qu'on essayait de foutre dehors, mais qui franchissait pas la ligne. Faut qu'on le foute dehors. Et il a fait toute la journée avec nous à faire le relou. Et mi-relou, mi-marrant. Et à la fin, il a franchi la ligne, on l'a foutu dehors, mais c'était une journée épique. Mais oui, après, je pourrais en citer plein. On a fait une after du Weather Festival, le premier en 2013. Dans l'after, t'avais Robert Root, Théo Parrish, Joachim Klossel, Black Coffee. Enfin, c'était un line-up de festival. Juste dans Concrète, t'avais Ron Trent qui était là dans le public pour faire la fête. C'était juste magique, quoi. Et moi, ça faisait 3 ans que j'organisais des événements. Ces gars-là, c'était mes héros. Et là, ils venaient jouer pour moi dans mon club. Et je faisais la fête dans mon club avec ces artistes-là au platine. C'est magique.
T'as des mauvais souvenirs aussi ? Genre des soirées catastrophiques
Les mauvais souvenirs avec Concrète, c'est le fait que, à aucun moment, Concrète, c'était mon travail, en fait. C'était ma passion, c'était le lieu où j'allais faire la fête, c'était mon living room. Et ça a cartonné. Mais du coup, bah, quand tu cartonnes, tu te retrouves face à la critique. Et quand on critique ton job, ça va. Mais quand on critique le truc et ta passion pour lequel tu dors pas, tu donnes tout et où toi tu te sens si bien. C'était des fois compliqué à gérer, j'ai mis du temps les premières années. Les gens ils mettaient des critiques sur Facebook, mais je répondais sale quoi. Je prenais ça pour moi et tout. Enfin, j'étais pas capable, j'étais pas du tout mesuré quoi. Tu vois, quand ils disaient ah, la musique est pas bien, quoi, c'est mon artiste
quoi,
préféré. C'était mon bébé. J'ai vécu des expériences difficiles avec ça. Parce que en plus, mine de rien, des fois les gens ils critiquaient des choses qui étaient complètement légitimes, des choses qu'on n'arrivait pas à améliorer, genre la sécurité par exemple. On a eu, c'était un sujet abominable quoi, tu
la
vois là.
La sécurité qui était trop dure
avec les gens. Et tu peux rien faire en fait. Et tu peux rien faire. Tu leur dis, arrêtez, tu vires, tu changes des agents, t'en mets d'autres, et l'autre agent il arrive, il est très bien. Deux teufs après, il a pris ses aises et il maltraite les gens et c'est méga compliqué. C'est horrible de te battre toute la semaine pour faire venir les gens chez toi et que quand ils viennent, et ben il y a des gens qui leur disent non, ne viens plus quoi. Ça c'était un gros problème pour nous qu'on a réussi à régler après sur les dernières années en trouvant des bons agents, mais ça n'a jamais été parfait.
En parallèle de Concrète avec Surprise, donc qui était la société hein, qui gérait le club que vous avez créé avec tes associés. Vous avez lancé donc un festival, j'ai presque envie de dire, vous lancez des teufs gigantissimes, c'est All the Weather. Comment on passe de l'organisation de grosses teufs sur un bateau à des grands messes qui rassemblent plusieurs dizaines de milliers de personnes? C'est un autre game, ouais.
Il n'y avait pas ça à l'époque, il n'y avait pas eu de gros festival à Paris, il n'y avait pas encore Peacock. Et on fait notre premier événement dans un hangar qui était à Nières, qui s'appelait la Syrah. C'était un des premiers gros warehouses, tu vois, avec l'ambiance d'aujourd'hui qui déborde jusqu'à 10h du matin et compagnie. C'était magique. Et on en a fait deux et on est arrivé à 3500 personnes. Parce que Concrète, en gros, c'était 1500-2000 personnes en roulement, quoi. Et là, on se dit, putain, là, on est capable de ramener 3500 personnes dans une fête avec un line-up qui coûte tant. Est-ce qu'on n'est pas capable de ramener 5000 personnes en vrai? Et on a commencé à chercher un lieu et on a trouvé le Palais des Congrès de Montreuil. Et on s'est dit, bon, on va faire Weather Festival, on va pousser un peu plus le line-up et on va se faire un truc de 5000-6000 personnes. Et on s'est tous chauffés, on s'est tous emballés. Et mon line-up, il est parti d'un truc de 10 noms à un truc de 20 noms avec que des gros. Enfin, il y a tout le monde. Les Deadman, Robert Wood, c'était n'importe quoi. Et surtout, c'était la première fois que tous ces artistes étaient réunis sur un même line-up à Paris. Et en fait, on devait faire 8000 personnes, on en a fait 16000, quoi. C'était pas un festival, ce truc-là. C'était l'apocalypse. c'était une rave, c'était un vrai truc. Et ça fait partie des mauvaises expériences dans le bashing par le public. On s'est fait défoncer sur le premier événement parce qu'il faisait 50 degrés dans la salle. En fait, le mec qui a ce lieu... un peu une sorte d'escroc mafieux. Il nous a loué la salle en nous disant qu'il y avait de la climatisation et un inter-étage avec des toilettes avec l'eau courante. Et le jour même, il nous a dit non, mais il n'y a pas de clim. Et les toilettes à l'inter-étage, vous ne pouvez pas les utiliser, sinon je coupe le courant. Et du coup, on s'est retrouvé dans un lieu où on a mis 16 000 personnes, où la température allait monter parce qu'il n'y avait pas de clim. Donc il faisait vraiment, il devait faire 45 ou 50 degrés dans le truc, c'était n'importe quoi. Il y a la sueur gouttait du plafond, tu étais obligé de marcher avec ton verre, avec la paume de la main sur le verre, sinon tu buvais la sueur. Et le gros problème, c'est que vu qu'on avait plus cet inter-étage avec les toilettes, avec l'eau en libre accès, il n'y avait plus d'eau en fait. Donc ils ont tous bu de la bière à la fin.
Malin.
Ils ont tous bu. Ouais, non, mais c'est pas malin parce qu'on se faisait insulter. Et même nous, je me rappelle que les artistes, on pouvait pas leur donner de l'eau en fait. On était obligé de leur donner de la bière chaude avec de la sueur dedans.
Après cette rêve avec 15 000 personnes, au Weather, ça continue de grossir. Après, il va y avoir même plusieurs festivals dans une même année avec le Weather Winter, le Weather Summer, et puis l'apothéose au Bourget.
On en a fait deux.
Il y en a eu deux. Il y avait quoi, de 50 000 personnes?
Ouais, on en a fait deux au Bourget. On en a fait en 2014 et en 2016. Et ouais, on est arrivé jusqu'à 50 000 personnes sur le week-end. Avec Concrète, je voulais créer une nouvelle scène en éduquant les gens avec une musique. Et le Weather, ça a été ça, puissance 50 000 en fait. Et là, c'est devenu un vrai rassemblement populaire où on s'est retrouvé avec une bonne partie du public qui n'écoutait pas du tout de musique électronique et qui venait découvrir la musique électronique ce jour-là. On s'est retrouvé le lendemain du festival au Bourget de 2014 avec ces jeunes qui ont créé une page qui s'appelait Weather Festival, un groupe qui s'appelait Weather Festival Musique sur Facebook, qui a eu genre, ça n'existait pas en fait ce genre de communauté à l'époque, qui a eu directement genre 20 000, 30 000, 40 000 abonnés, où le but c'était de partager des morceaux qui avaient été joués au Weather, et les gens se sont fait une culture musicale sur ce groupe qui a complètement dégénéré après. Après c'est devenu le proto-groupe des Technoflex et compagnie aujourd'hui, c'est une dynastie, c'était Dallas avec des dramas, des gens qui se battaient, nous on se faisait insulter dessus, on était accusés de manipuler les trucs, d'effacer des messages alors qu'on ne calculait même pas. Le Weather, je pense que ça a vraiment créé un public méga large et un engouement pour cette musique qui a permis à la scène aussi de parisienne et française d'exploser après quoi.
Justement, il peut y avoir dans la scène club underground une forme d'élitisme vraiment, de rejet du mainstream, voire de mépris pour le public qui n'en est pas. Toi, c'est un truc que tu as toujours combattu en fait dans tout ce que tu as fait, toute la programmation que tu as faite, que ce soit à Concrète ou au Weather.
Je viens pas du même endroit que les gens qui font des fêtes. Moi, j'ai pas de complexe sur underground. Mais moi, j'écoute pas de la musique pour être underground, en fait. J'ai rien à me prouver. Et moi, à l'origine, mon ambition, c'était pas de devenir underground en écoutant de la musique underground, en écoutant du rap ou de la techno. Moi, mon but dans la vie, c'était rentrer dans le système pour en profiter, en fait. Trouver un bon travail, arriver à rentrer dans les clubs et compagnie. Donc ce process d'ouvrir la porte à tout le monde, moi je trouve ça plutôt naturel.
Alors quand tu ouvres la porte à tout le monde et que du coup t'entends dans ton club un groupe de mecs assez rebou au milieu de la piste de danse qui commence à siffler, à crier « Allez là !» hein, sur un super DJ roumain que t'as programmé, qu'est-ce que tu te dis ?
Bah, moi ça me saoule et ça m'est arrivé des fois, j'étais mal luné, j'en ai mis dehors. Mais surtout, ce que je me dis, c'est que mon club, c'est la France, quoi. Des mecs, des cons, il y en a dans la rue. Donc, bah, dans ton club, il y aura des cons, quoi. Il faut pas espérer de construire une société parfaite dans ton club, parce que c'est qu'il y a un problème, en fait. Dans la vie, il y a des relous. Dans ta fête, faut qu'il y ait des relous, sinon ça ressemble pas à la vie et c'est pas marrant. Et finalement, ces histoires de aller là, c'est le truc le plus marrant de la nuit, en fait. Faut dire ce qui est.
Si on a plus,
c'est moins marrant.
Triste.
Ouais, oui. Enfin, t'imagines, si on pousse l'extrême à ça, imagine qu'on aurait que des mecs qui sont autour du DJ Boost pour essayer de voir c'est quoi le morceau que joue l'artiste. Enfin, on s'en fout, quoi. Moi, je veux des gens qui tournent le dos à l'artiste et qui en ont rien à foutre et qui renversent leur verre sur celui à côté. C'est ce qui est marrant, quoi. Dans une fête, pour moi, faut qu'il y ait des nerds, faut qu'il y ait des cons, faut qu'il y ait tout, quoi.
T'imaginais un jour ouvrir un club comme ça qui restera dans l'histoire des nuits parisiennes quand t'étais plus gamin ou quand t'as commencé à sortir à Berlin ?
Eh ben, en fait, le DJ Boost de Concrète, je l'avais inventé 10 ans avant. Quand j'ai commencé à aller au Berghain et compagnie, que j'allais à Berlin, j'avais pas l'intention de monter un club, j'avais pas l'intention d'organiser des fêtes parce que tout simplement je pensais que c'était inaccessible pour moi et que de toute façon un club à Paris, il fallait être un mafieux. Enfin, j'imaginais les trucs, les tontons flingueurs, quoi. Enfin, genre, les trucs de gangsters. Je disais jamais j'aurais un club à Paris. Mais malgré ça, j'ai toujours été un mec, je suis beaucoup dans l'imaginaire. J'ai essayé d'imaginer quel club il faudrait que je fasse à Paris pour avoir un truc vraiment spécial, et j'imaginais exactement ce DJ booth où les gens pouvaient danser tout autour et où il n'y aurait pas d'espace VIP, où il n'y aurait pas de backstage et compagnie. Donc oui, j'avais imaginé ce truc-là, mais par contre j'avais aucune ambition de le faire parce que je pensais que c'était pas possible, quoi.
T'es fier ?
Bah, je suis hyper fier parce que non seulement je l'ai réalisé, mais on a eu énormément de succès, en fait. Enfin, c'est un miracle ce qui s'est passé. C'est plein de paramètres qui ont été réunis à ce moment-là. Je suis plus que fier d'avoir fait ça. C'est incroyable.
En 2019, Concrète ferme, parce que vous êtes expulsé par la société propriétaire de la péniche. Et 5 jours après, je crois, il y a deux heures brutes qui ouvrent dans le 12e arrondissement de Paris, donc un nouveau club par la même équipe, par surprise. C'était évident, cette transition, cet enchaînement, comment ça s'est passé ?
Nous, 2019, c'était la fin du monde, quoi. On perdait notre bébé, on perdait notre club. Et en vrai, ce qu'on aurait pu faire, c'était mettre la clé sous la porte. Parce que de toute façon, 6 mois après, tout le monde a mis la clé sous la porte avec le Covid. Mais à ce moment-là, nous, on voulait pas arrêter ce qui nous arrivait avec Concrète. On voulait continuer. Donc on a tout fait pour qu'il y ait une continuité. Et on a réussi parce qu'on a trouvé le lieu de dehors brut. On a monté un club en 3 semaines chrono. C'était un terrain vague qui appartenait à la SNCF. Donc il a fallu tout raser, mettre à plat, construire un dance floor. Ça nous a coûté hyper cher. C'était quasi pas rentable, ce truc-là. On a tous annulé nos vacances. On a dû rester sur place. On a lancé ce projet qui a fait un carton. On est passé de la déprime de la fermeture de Concrète à un truc qui repart, qui est génial. J'étais pas aussi fou de dehors brut que de Concrète, c'était pas la même expérience, mais c'était quand même intéressant. Au mois de septembre, on a malheureusement un jeune qui a fait une overdose d'ecstasy, qui est mort. Donc là, le gros bad, quoi, c'est la première fois que ça nous arrivait. Fermeture d'un mois alors qu'on était déjà en problème, on avait déjà des problèmes financiers. Et ensuite, on relance la machine, et là, le Covid. Donc voilà, les montagnes russes, quoi.
Donc vous avez subi cette fermeture administrative suite à l'overdose d'un jeune homme dans le public, alors que pourtant, c'est vrai que c'était l'un des clubs qui était le plus en pointe, hein, je crois, sur les dispositifs de thèse, de prévention, et tu disais même à Concrète, il n'y avait jamais eu de problème. C'est un enjeu majeur et compliqué, la gestion de la consommation de drogue dans un club.
C'est un enjeu majeur, et le problème, c'est qu'on était les seuls. On était un des seuls clubs, soit Concrète ou dehors brut. On avait des médecins sur place, en fait. On payait des médecins. Mais le problème avec les clubs, c'est que l'économie, elle est super fine et personne n'a les moyens. Enfin, nous-mêmes, on n'avait pas les moyens de payer des médecins pour faire ça. Et ça devrait être payé, en fait. Ça nous a vraiment choqués. On a eu du mal à s'en remettre. Mais ça aurait pu arriver n'importe où, en fait.
Ça aurait pu arriver n'importe où parce que qu'on le veuille ou non, qu'on le cautionne ou qu'on le condamne, ça fait partie, en fait, de la culture de la teuf, cette consommation de drogue, mine de rien. Tu sais pertinemment qu'une partie, une grosse partie de ton public est éclatée à l'extasie et à la coke.
Pour moi, la drogue, c'est même pas lié à la fête, c'est lié à la jeunesse surtout. Les jeunes, ils font des soirées pyjama, ils prennent de la drogue, quoi, à 15 ans, enfin, ils fument leur premier joint et compagnie. C'est dans la culture des jeunes, et tu pourras jamais l'enlever, ce truc-là, que ce soit. Il n'y a pas plus de MDMA dans un festival techno qu'à Coachella. Et je pense qu'à Coachella, il y en a beaucoup plus. Il n'y a pas plus de coke au Rex que dans un club sur les champs. Je pense que sur un club sur les champs, il y a beaucoup plus de coke parce que les gens, ils ont plus les moyens de s'en acheter. C'est pas du tout lié à la culture musicale ou voilà, à la typologie de la soirée, quoi. C'est partout, quoi. C'est pas la techno qui a inventé la drogue, quoi. Et c'est pas la techno qui laisse rentrer de la drogue dans le pays. Donc c'est pas nous qui devrons payer pour casser là-dessus.
Par contre, il y a une responsabilité collective et des pouvoirs publics de faire de la prévention, de mettre en place des dispositifs de test, d'avoir, comme tu disais, des médecins sur place ou à proximité. C'est quelque chose qui est très fait, par exemple, au Portugal.
Le problème, c'est qu'on ne veut pas regarder les choses en face. C'est qu'on veut être dans ce truc d'interdiction. Au mieux de prendre le problème, c'est de dire bon, la drogue, de toute façon, elle est là, donc il faut faire avec. Et les problématiques, par exemple, de testing, c'est super important. Bah oui, si on teste, ça veut dire que les gens, ils ont de la drogue. Mais bah oui, de toute façon, ils en ont. Donc autant faire attention et leur permettre de savoir s'ils vont pas se faire empoisonner par le truc qu'ils vont prendre. Et si vous voulez pas qu'ils prennent de la drogue, faites du suivi autre part que dans le club, en fait. Essayez de voir le problème en amont, pourquoi les jeunes y prennent de la drogue, comment cette drogue elle arrive, pourquoi il y a de la drogue dégueulasse qui tourne.
Après cette mauvaise expérience, il y a le Covid qui arrive, hein, qui met un coup d'arrêt définitif à l'aventure. Votre agence Surprise est liquidée par le tribunal de commerce de Paris. Comment tu vis cette fin ?
La fin, elle a commencé avec la fin de Concrète. Donc, dehors brut, c'était un lieu de dépannage qu'on ne devait pas garder définitivement. De toute façon, il devait fermer ses portes en juin 2020, voire septembre maximum. Donc, en vrai, ça n'a pas changé grand-chose pour nous à ce niveau-là, quoi.
Tu rouvriras un club un jour ?
Ah, mais moi, je vis que pour ça. Enfin, je vis que pour ça. Ça me plaît ce que je fais aujourd'hui de faire de la musique parce que c'est un complément. Le club, l'événementiel, la fête, c'est... C'est la matérialisation de toutes ces expériences que je vis dans ma tête en écoutant de la musique. Quand j'écoute de la musique chez moi, je la vois visuellement par des formats géographiques, des ronds, des machins et tout. Je suis plutôt comme ça. Et le club, ça te permet de poser une autre réalité dessus qui est humaine, en fait, avec des gens. Et moi, mon délire, c'était ça. C'était à Concrète. J'avais un petit coin sur le côté du DJ booth d'où je me mettais et où je dansais pendant des heures. Et je regardais les gens, en fait. Et j'écoutais la musique d'un côté, je regardais les gens, et c'était vraiment mon truc, quoi.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête ?
Qu'est-ce qui peut tuer la fête ? Le truc, c'est que rien qui peut tuer la fête. Parce qu'en fait, plus on veut la tuer, plus ça la provoque. Et on le voit là, on ferme les clubs, on empêche les festivals, on dit aux festivals de faire des événements assis. Les gens, les jeunes arrivent à faire des fêtes avec une enceinte aux boîtes de Vincennes et compagnie. Oui, il n'y a rien.
C'est quoi pour toi les ingrédients d'une fête réussie ? Qu'est-ce qui compte le plus ? Ça va être la musique, ça va être l'ambiance, ça va être le lien social ?
Ce qui compte le plus dans la fête, c'est l'équilibre dans le public, en fait. C'est ça qui fait toute la fête. La musique, c'est super important parce que ça te permet d'apporter vraiment un contenu à ce que tu fais. Mais ce qui va faire la différence entre la bonne fête et la mauvaise, ça va être ce mix de gens qu'il va y avoir. Et tu peux faire une soirée privée où tu sélectionnes les gens sur le volet, où tu vas prendre les meilleures personnes et ça va trop mal se passer. Et tu peux faire une soirée gratuite ou une fête de la musique ouverte à tout le monde où tu vas avoir n'importe quoi et ça va être une ambiance de folie. Le centre de la fête, c'est les gens, dans quelle disposition ils sont, à quel moment se fait cette fête. Par exemple, là, je pense que les fêtes qu'il va y avoir à la fin du Covid, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais vécu, je pense. les gens n'ont jamais été empêchés de faire la fête pendant 2 ans comme ça s'est passé en ce moment. Il y a des jeunes, aujourd'hui, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans, ça fait 2 ans qu'ils devraient pouvoir aller en boîte de nuit, ils n'ont jamais pu y aller, quoi. Ils doivent se mordre les doigts. Et quand ça va rouvrir, les mecs, ils vont être en boule de feu et ça va être n'importe quoi. Et pareil pour ceux de ma génération. Moi, je compte faire la fête toute ma vie, donc c'est pas un problème. Mais il y en a plein qui doivent se dire, putain, genre, j'ai 40 piges, j'aimerais bien faire mes dernières fêtes et après arrêter de mettre à la retraite. Et ben, je peux même pas parce qu'il n'y a plus. Et ces gens-là, ils vont vouloir rattraper le temps perdu. Je pense qu'on n'aura jamais vu ça.
Tu prédis qu'il va y avoir un Summer of Love 2022, quoi.
Ah, mais clairement. Ouais, je pense. Ça sera complètement différent. Je pense que ça sera un Summer of Love qui sera plus hargneux, quoi. C'est pas Summer of Love, ça s'est fait dans l'amour et dans la croyance d'un monde meilleur et compagnie. Alors qu'aujourd'hui, on croit plus à un monde meilleur. On veut se venger de toute la merde qu'on s'est pris et qu'on se prend en ce moment. Et donc, ça va être un truc, je pense, très intense. C'est comme je disais tout à l'heure, ce truc de Paris où il y a une atmosphère qui était quasiment meilleure qu'ailleurs parce qu'elle était électrique et elle était un peu nerveuse. Et bien là, c'est ça qui va se passer. Je pense que ça va être vraiment... ça va être tonique.
Alors, pour conclure, qu'est-ce que c'est pour toi, au final, que le sens de la fête, ça a raison d'être ?
Pour moi, la fête, c'est un monde parallèle dans lequel je rentre et qui met de côté toutes les choses, on va dire, qui m'ennuient en fait. Toutes les choses sérieuses, toutes les discussions. Je suis pas quelqu'un qui aime aller en terrasse de café pour discuter politique et compagnie. Dans un club, faire la fête, c'est avoir trop de son pour pouvoir discuter. C'est avoir que des gens bêtes autour de soi et ce qui permet à toi d'exprimer ta bêtise aussi, donc de prendre du recul sur la vie et de pas trop te prendre la tête. Hormis le côté musical et artistique est super important, c'est un exutoire énorme en fait.
Le sens de la fête est un podcast de Nicla Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
Si tu devais choisir une seule track, le morceau ultime pour faire la teuf.
Il y a un morceau qui est super visuel pour moi, où j'ai directement l'impression de voir des corps en sueur et c'est un gros gros classique de Chicago, c'est Adonis No Way Back. Et ce morceau, je trouve que c'est une bonne définition de la fête comme je l'aime. La fête sale, quoi. La fête un peu... La fête canaille, quoi.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.